Voix Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, il est 11h en temps universel. Le procès des 7 militaires camerounais accusés d'être impliqués dans l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs 2 enfants dans le nord du Cameroun a été renvoyé. Aujourd'hui, à la mi-septembre, les 7 militaires jugés, dont un capitaine de l'armée, doivent comparaître pour complicité d'assassinat, violation de consignes et complicité des faits, selon le chargé de communication du ministère camerounais de la Défense. Leur procès devait initialement s'ouvrir fin août, mais avait déjà été renvoyé à aujourd'hui. Lundi, Amnesty International avait demandé aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. Toujours au Cameroun, des milliers de personnes ont quitté ces derniers jours les régions anglophones, redoutant une escalade des violences après l'appel des séparatistes à déjourner ville morte. John Lindon.
James Noonan, du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a affirmé qu'un nombre important de personnes ont fui les villes de Bamenda, Kumba et Boya. Selon lui, ce seraient des milliers, mais difficile de donner un chiffre exact. À Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, de nombreux départs ont été observés depuis vendredi, d'après Roland Goran de l'ONG Plan International dans cette ville. De nombreuses personnes ont aussi quitté Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, selon le responsable d'une ONG qui a requis l'anonymat. C'est bientôt la rentrée des classes et de nombreux parents envoient leurs enfants hors de ces régions pour qu'ils poursuivent leurs études. Depuis le début de la crise, plus de 4400 écoles ont fermé dans les régions anglophones. Mardi, un tribunal militaire de Yaoundé a condamné Julius Ayouk Tabé, leader séparatiste, à la prison à perpétuité. Cela a provoqué la colère de ses partisans qui ont appelé les habitants de ces régions à observer à partir d'hier lundi des journées ville morte.
Un responsable de la communauté rwandaise au Mozambique, considéré comme un proche du régime du président Paul Kagame, a été tué par balle lundi à Maputo lors d'une embuscade. Président d'une association de la diaspora rwandaise, Louis Baziga, âgé de 47 ans, a été abattu de plusieurs coups de feu tirés par 3 individus armés alors qu'il circulait à bord de son véhicule dans la capitale mozambicaine, selon la police. Ces 3 agresseurs présumés ont réussi à prendre la fuite à bord d'un véhicule 4x4, a précisé la police qui n'a livré aucune hypothèse sur les causes de l'homicide. Au Soudan, pas de répit pour le gouvernement de transition. Le nouveau premier ministre a 6 mois pour s'imposer face aux généraux, restructurer l'économie et faire la paix avec les groupes armés. Washington a décidé de suivre de très près la situation à Khartoum. Idrissa Seydou Dia.
Les États-Unis vont surveiller de près l'engagement du gouvernement de transition du Soudan en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix, avant de biffer ce pays de leur liste d'États parrainant le terrorisme. Ils se disent encouragés par les premiers contacts avec le nouveau premier ministre de la transition, l'économiste Abdallah Hamdok, qui a prêté serment dimanche, 4 mois après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir. Mais les officiels américains sont préoccupés par l'homme fort soudanais, le général Mohamed Hamdan Dagalo, appelé Emeddi, et son rôle dans les forces de soutien rapide.
5 anciens responsables de la Banque centrale du Liberia, CBL, dont un fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, ont plaidé hier non coupables des accusations de blanchiment, complot criminel et sabotage économique portés contre eux dans une retentissante affaire liée à l'entrée de billets au Liberia entre 2016 et 2018. Les soupçons de mauvaise gestion de l'ancienne direction de la Banque centrale avaient vu le jour après l'arrivée à la présidence de l'ex-star du football, George Weah, en janvier 2018. L'administration de George Weah est elle-même critiquée pour avoir conduit de manière hasardeuse, quelques mois plus tard, une opération monétaire censée enrayer l'inflation. En Guinée, une pluie battante n'a pas empêché plusieurs dizaines de professionnels des médias de sortir lundi matin à Conakry pour exiger le respect des libertés pour 2 journalistes inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Reportage de notre correspondant Zakaria Camara.
Depuis l'aube, il pleut à verse sur Conakry.
Liberté ! Liberté !
Mais ces intempéries n'ont pas empêché plusieurs dizaines de professionnels des médias de rallier Kaloum, le centre-ville de la capitale et siège de la haute autorité de la communication. Lamine Guirassy, PDG d'Adafo Média, et Nourou Diallo, administrateur général de GuinéeMatin.com, tous sont venus protester.
Ce qui se passe dans notre pays, c'est juste incroyable, inimaginable. On a vu venir ça de loin. Maintenant, si on est divisé, évidemment, c'est bonjour à tout ce qui peut arriver après la presse. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'unir pour défendre les acquis.
En réalité, on est en train de bafouer toutes les libertés. Aujourd'hui, on veut intimider le seul canal par lequel les uns et les autres passaient pour dénoncer les violations des libertés, les violations des droits à la République de Guinée. Il faut que ça s'arrête.
Vive la 1002, vive la 1002, pour que vive la démocratie en Guinée.
Les deux journalistes de Lynx FM sont inculpés et placés sous contrôle judiciaire sous la base de la loi sur la cybersécurité. Une loi répressive qui inquiète Jacques Léoua Lénon, rédacteur en chef d'Espace TV.
Le fait que cette nouvelle loi qui traite de la cybersécurité soit utilisée pour juger les journalistes, je pense que c'est un mauvais choix et c'est une intimidation assez grave. Maintenant, le choix qu'on a fait aussi de venir à la Hague, je crois que le message, il est clair. La HAC doit être consciente qu'elle est elle aussi en danger. Parce que les ministres sont en train de l'oublier carrément pour aller vers les juridictions. Si la HAC existait, c'est elle qui devrait recevoir en premier normalement les plaintes.
Le journaliste Aboubacar Diallo est interdit d'animer Œil de Lynx. Pour Aboubacar Camara, secrétaire général de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, c'est une violation de trop.
Il n'appartient pas à un juge comme ça dans la volée, sans passer par un jugement. De dire à un journaliste, tu es interdit de micro. Où est le jugement préalable? Il n'y a pas eu de jugement préalable. Il n'y a pas eu de jugement. Maintenant, sur quelle base le juge se fonde-t-il pour dire non, tel ne doit plus passer à l'antenne? On va de violation en violation.
Un mémorandum a été déposé à la haute autorité de la communication, mais les associations de presse guinéennes ont annoncé qu'elles se gardent le droit d'organiser dans les jours à venir d'autres formes de protestation sans exclure une journée sans presse. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Les combats dans la région d'Idleb, en Syrie, frontalière de la Turquie, que le régime tente de reprendre à des djihadistes et groupes rebelles avec le soutien de Moscou, ont fait au moins 51 morts dans les deux camps aujourd'hui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Soutenu par l'aviation russe, les forces du régime ont repris ces derniers jours plusieurs localités, poursuivant leur offensive au sol lancée le 8 août après 4 mois de bombardements quasi quotidiens. Depuis mercredi dernier, ces forces du régime ont repris la ville clé de Khan Cheikhoun et plusieurs localités à Hama au sud, y encerclant un poste d'observation de l'armée turque. Vous suivez Afrique, la Chine s'est dite aujourd'hui extrêmement mécontente de la déclaration du G7 sur Hong Kong qui a appelé à éviter les violences dans le territoire semi-autonome après plus de 2 mois de manifestations contre l'exécutif pro-Pékin. Devant la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise a répété que la situation dans l'ancienne colonie britannique relevait des affaires intérieures de la Chine et qu'aucun État, organisation ni individu n'a le droit de s'y ingérer. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé aujourd'hui les États-Unis à faire le premier pas en levant toutes les sanctions imposées à l'Iran sur le dossier nucléaire, en réaction aux propos du président américain Donald Trump jugeant réaliste une rencontre avec le dirigeant iranien. La tension entre les États-Unis de M. Trump et la République islamique sont exacerbées ces derniers mois dans le sillage du retrait unilatéral américain de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement par Washington de fortes sanctions contre Téhéran. Une légère décrispation est toutefois apparue à l'occasion du sommet du G7 ces derniers jours en France. Donald Trump n'écartant plus le principe d'une rencontre avec son homologue iranien. Et puis, l'ancien producteur de cinéma américain, Harvey Weinstein, déjà poursuivi dans 2 affaires d'agression sexuelle, a plaidé non coupable hier devant le tribunal de l'État de New York à Manhattan, où lui a été notifié un nouvel acte d'accusation. Son procès devant ce tribunal, qui devait s'ouvrir le 9 septembre, a été reporté de 4 mois, soit au 6 janvier 2020. Longtemps considéré comme l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood, Harvey Weinstein, 67 ans, a décidé de plaider non coupable des chefs d'inculpation retenus tenus contre lui, y compris ceux de viol et d'agression sexuelle. S'il est reconnu coupable, il risque une condamnation à perpétuité. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.